Vous êtes sur RTL.
À 6h, le journal, c'est avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le gouvernement s'apprête à donner plus d'autonomie aux départements sur les 80 km/h.
Édouard Philippe pourrait l'annoncer aujourd'hui alors que la mesure semble avoir pourtant produit des effets. La mortalité routière en nette baisse l'an dernier. La préfecture de police donne sa version deux jours après la blessure à l'œil d'une figure des Gilets jaunes sur RTL. Le préfet assure qu'il n'y a aucune possibilité de dire que Jérôme Rodriguez a été victime d'un lanceur de balles de défense. Et puis le foot, fracture confirmé pour Neymar, plus incertain que jamais pour le match de Ligue des Champions dans deux semaines. Le PSG qui a battu Rennes 4-1 hier soir.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
Un peu de patience à Hasbrouck dans le nord. Les nuages matinaux vont se dissiper. Le soleil s'imposer. Il y est prévu 5 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
C'est donc aujourd'hui qu'Édouard Philippe en personne enclenche la marche arrière sur les 80 km/h.
Une mesure qu'il a lui-même portée, sans le soutien de son ministre de l'Intérieur, à l'époque Gérard Collomb, sans non plus celui du président. Emmanuel Macron aurait même dit à Laurent Wauquiez la semaine dernière que c'était une erreur. Le Premier ministre présente aujourd'hui le bilan de la sécurité routière pour 2018. Il s'annonce bon, 245 morts de moins sur un an. Mais cela n'y change rien, l'affaire semble entendue, Christophe Bourreau.
L'expérience devait durer deux ans. Finalement, sept mois seulement après son entrée en vigueur, elle pourrait s'arrêter. En tout cas, sous sa forme actuelle, à savoir un 80 km/h généralisé aux 400 000 km de route secondaire. D'abord parce que la mesure est impopulaire, non seulement auprès des Gilets jaunes, mais aussi pour une grande majorité des Français. Près de 80% y sont opposés. Ensuite, rien n'a encore permis de déterminer si cela a fait reculer la mortalité. Même si les chiffres du nombre de tués l'an passé, qui seront communiqués ce matin, seront certainement en baisse, déjà 245 morts en moins entre novembre 2017 et 2018. Ce n'est donc pas le moment de faire marche arrière, prévient la Ligue contre la violence routière, qui estime que tout aménagement enverrait un mauvais signal aux conducteurs. Le gouvernement pourrait en effet autoriser les conseils départementaux à décider si une zone est dangereuse et si donc elle doit être limitée à 80 ou 90 km.
Christophe Bourreau, la grippe soupçonnée d'avoir causé la mort de 6 personnes dans une maison de retraite du Loiret. 4 résidents, mais aussi 2 soignants. La responsabilité du virus n'est pas encore établie pour tous les cas. Ce qui suscite le plus d'incompréhension dans cet établissement de la Chapelle Saint-Mémin, près d'Orléans, c'est que 4 des victimes au moins étaient vaccinées.
RTL 6h et 2 minutes, le préfet de police de Paris donne sa version des faits après la blessure d'un leader des Gilets jaunes ce week-end.
Jérôme Rodriguez pourrait perdre un œil. Il affirme avoir été visé intentionnellement par un policier qu'il aurait reconnu, selon lui, samedi sur la place de la Bastille. Il est convaincu d'avoir été victime d'un tir de lanceur de balles de défense, un LBD. Sur RTL, le préfet de police Michel Delpuech répond point par point.
Nous avons utilisé à 18 reprises les LBD sur la place de la Bastille. Rien ne permet de faire le lien entre l'usage dont j'ai eu le compte-rendu et puis la blessure, mais c'est à l'IGPN d'établir de manière certaine les faits.
Quand on vous dit qu'il n'y avait pas visiblement de menace imminente vis-à-vis des forces de l'ordre et qu'il n'y avait pas donc légitimité à faire usage de cette grenade qui est puissante, qu'est-ce que vous répondez à ça?
À ce stade, rien ne permet de l'affirmer. Il faut avoir la vision d'ensemble, l'enchaînement des faits. Il peut y avoir des violences dans son dos, derrière, qui ont pu justifier l'usage de cette grenade de désencerclement.
Lui dit, c'est ma personne qui a été visée, moi, leader des Gilets jaunes, les policiers m'ont reconnu, ils m'ont visé.
Ça ne peut pas tenir. Comment voulez-vous que l'ensemble des forces de l'ordre engagées hier sur le dispositif puissent connaître M. Rodriguez, sa notoriété est certes grande, mais affirmer qu'il a été visé ad hominem, c'est des affirmations qui sont blessantes.
Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, au micro RTL d'Olivier Bois.
En tout cas, cette blessure, elle pose beaucoup de questions. On y reviendra tout à l'heure à 7h20 sur RTL avec Alain Bauer, spécialiste de la sécurité. Il sera l'invité de Yves Calvi.
Trois semaines après son placement en détention pour avoir frappé des gendarmes mobiles sur une passerelle à Paris, l'ex-boxeur Christophe Détinger fait appel de son placement en détention. Sa demande est examinée à 13h30 aujourd'hui. Hier, 10 000 personnes se sont réunies dans la capitale à l'appel du mouvement des foulards rouges. Ils contestent la légitimité des gilets jaunes. Pas d'incident. Les organisateurs n'appellent pas pour l'heure à une nouvelle manifestation. Quelques confidences hier d'Emmanuel Macron sur ce mouvement. C'était en marge de son déplacement en Égypte. Le grand débat national doit aboutir, je cite, à la réinvention de notre démocratie. Il assure que cela aura des conséquences profondes et que ça ne se traduira pas seulement par des mesures techniques.
Il y avait d'autres manifestations ce week-end, notamment la marche pour le climat.
80 000 personnes ont défilé dans une dizaine de villes en France. Participation en baisse par rapport aux précédentes éditions. Les ONG espéraient surfer sur le succès de la pétition qui a recueilli 2 millions de signatures sur Internet. Signatures en vue d'une action contre l'État qui est accusé de ne pas en faire assez contre la pollution. La mauvaise qualité de l'air, c'était justement le thème mis en avant par les organisateurs à Lyon. Maxime Forest est l'un d'eux.
Cette fois-ci, on s'attaque au sujet de la pollution de l'air avec des gros enjeux localement puisqu'on a une inaction de nos élus sur le sujet. Actuellement, nous avons déjà des alternatives qui existent, que ce soit les transports en commun, les métros, les réseaux vélos. Donc il faut certes à nouveau amplifier ces alternatives, mais on peut commencer déjà à limiter l'accès de ces véhicules en centre-ville. On aimerait bien que la métropole commence à planifier la fin du diesel et de l'essence. Pour accompagner cette mesure, on aimerait qu'elle mette en place tous les mois des journées sans voiture pour tester, voir quel est l'impact sur la pollution, tester des nouvelles appropriations de la ville. Ces sujets sont vraiment transverses et touchent toute la population. Actuellement, on est dans une situation telle d'urgence climatique et sociale qu'il faut vraiment que les choses bougent et avancent et que tout le monde se mobilise.
Des propos recueillis pour RTL par Peggy Liodeneau. L'administration va-t-elle valider le plan social de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde ? Réponse aujourd'hui. Paradoxalement, l'intersyndicale souhaite que ce PSE soit rejeté. Ça donnerait en fait un mois de plus pour tenter de trouver une solution. Les 850 salariés espèrent un rachat provisoire par l'État. Le temps de finaliser une reprise par un groupe franco-belge, reprise dont Ford ne veut pas.
C'est une élection importante qui se déroule en ce moment sur tout le territoire. Les agriculteurs choisissent leurs représentants.
Ceux qui vont siéger dans les chambres départementales d'agriculture, des structures très influentes dans le milieu rural. Elles sont dominées depuis des années par la FNSEA qui est défiée par la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. C'est en fait le modèle agricole qui est débattu à l'occasion de cette élection qui va mobiliser 2,5 millions de personnes. Et RTL a suivi la patronne de la FNSEA lors d'un déplacement dans l'Allier. Reportage Jacques Serret.
La campagne dans la campagne française.
J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christiane Lambert.
Depuis un mois, la patronne de la FNSEA essaime les cours de ferme, les salles des fêtes municipales à la rencontre de ses agriculteurs.
Bonjour à toutes et à tous.
Pas de meeting, mais des échanges cash à l'image des réunions du grand débat.
Un micro.
Moi, je voudrais revenir sur les états généraux de l'alimentation qui m'ont complètement laissé sur ma faim.
Les amis, si on n'avait pas fait les manifestations prix du lait, prix du porc, prix de la viande en 2015-2016, il n'y aurait jamais eu cette question posée. Comment se fait-il que les agriculteurs en France travaillent et gagnent pas leur vie.
Mais il est parfois bien difficile de convaincre car un sujet revient sans cesse, l'agribashing. Les agriculteurs se sentent pointés du doigt par une partie des médias et de la population. Philippe Céréalier.
On se fait traiter de pollueurs, on se fait descendre. Les gens, ils ont un ras-le-bol, donc ils vont plus voter.
Un sentiment d'exaspération qui fait planer la menace d'une forte abstention. Gilles Cabart est le président de la FNSEA de l'Allier.
Il y a l'usure du pouvoir, le dégagisme ambiant. On a peur que les gens se disent que les syndicats, on n'est plus assez puissants pour faire passer nos idées.
Mais pas de quoi faire trembler Christiane Lambert.
Le dégagisme, on a bien vu ce que ça a donné. Au bout de 18 mois, c'est la chienlit dans notre pays. Donc ne faisons pas la même chose en agriculture. Je suis confiante, on va réussir à rester majoritaire, c'est certain, et avoir une belle victoire.
Fin du vote. Jeudi, les résultats devraient être connus d'ici le 6 février.
Reportage Jacques Serret.
Allez, on passe au foot. À 6h08, le PSG, même sans Neymar, se balade en Ligue 1.
4 buts à 1 hier soir face à Rennes au Parc des Princes en clôture de la 22e journée. Le club se prépare à affronter Manchester United sans Neymar. L'entraîneur Thomas Tourelle a admis que ça risquait d'arriver. Les radios ont confirmé une fracture au pied. Ça lui laisse peu de chances d'être rétabli avant le 12 février, date de la rencontre en Ligue des Champions contre le club anglais. Les autres résultats d'hier, Montpellier a battu Caen 2-0. Lyon reste sur le podium grâce à sa victoire 1-0 à Amiens, 0-0 entre Toulouse et Angers. Le Danemark remporte pour la première fois de son histoire le championnat du monde de handball. Victoire écrasante hier soir devant son public 31-22 face à la Norvège. L'équipe de France, elle, termine à la 3e place. Une médaille de bronze qui fait du bien après la déculottée de vendredi face au Danemark. Toujours 26-25 face à l'Allemagne hier. C'est Nicolas Karabatic qui a inscrit le but de la victoire dans la dernière seconde. Et tout cela nous donne le droit de rêver pour la suite, Isabelle Langer.
Ah, il fallait voir leur sourire hier sur le podium pour comprendre que cette médaille de bronze, même si elle n'a pas la saveur de l'or, représente beaucoup pour les joueurs de l'équipe de France. Didier Dinard, le sélectionneur des Bleus.
Une médaille de bronze qui concrétise un peu le travail d'un collectif. Donc c'est vraiment un plaisir de voir les joueurs terminer avec une récompense parce qu'ils le méritaient. C'est vraiment un plaisir pour eux. On a gagné une médaille dans la souffrance et ça, c'est constructeur pour la suite.
Parmi les satisfactions de ce mondial, il y a la montée en puissance de la jeune génération à l'image de Melvin Richardson, révélation tricolore de ce mondial.
Je suis super content, j'ai vécu un nouveau rêve de gosse. Il n'y a pas longtemps, je regardais tout ça à la télé. Et maintenant, voilà, de pouvoir vivre avec l'équipe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en tout cas, ça me donne soif de continuer à travailler pour revenir et revivre ce genre d'événement.
Prochain rendez-vous dans un an à l'Euro avec un enjeu gagné, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Isabelle Langer, des dizaines d'hommages après l'annonce d'hier la mort d'Henri Chapier, le journaliste créateur et animateur du Divan, sur lequel il avait confessé de très nombreuses personnalités du monde du spectacle, s'est éteint à 85 ans. Et puis la famille de Michel Legrand confie à RTL que les obsèques du compositeur se dérouleront vendredi prochain en l'église orthodoxe de Paris, puis au cimetière du Père Lachaise.
C'était le journal de Jérôme Chapuis. Merci Jérôme, on vous retrouve tout à l'heure à 7h.
À tout à l'heure.
Pour un journal aux côtés de Yves Calvi. Le temps maintenant avec vous Marina. Bon, entre deux perturbations, il y a de la place pour quelques rayons de soleil. Vous voyez, je positive, j'essaie de voir le côté ensoleillé des choses.
Exactement, il fera beau dès ce matin vers la Normandie, l'Île-de-France, l'Est des Pays de la Loire et l'ouest des Hauts-de-France. Ça touchera ensuite le centre Val-de-Loire et cet après-midi le Limousin aussi après les pluies de ce matin. Donc voilà pour la zone ensoleillée. Il y aura aussi une zone ensoleillée vers le sud-est, Provence, Alpes, Côte d'Azur et dans l'après-midi, ce classé nuageux, les côtes de l'Occitanie. Mais c'est tout pour le soleil parce que partout ailleurs, vous avez des nuages et pas mal de précipitations. Alors en fonction des températures, vous avez soit de la pluie, soit pluie et neige mêlée, soit de la neige. On a de la neige là sur le nord-est du pays. On a eu 3 cm là à Phalsbourg. Ça va rester perturbé cet après-midi, mais les averses seront moins nombreuses quand même, donc du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis aussi de la Bretagne en allant vers le sud-ouest. Attention, 4 départements pyrénéens placés en vigilance orange en raison du risque d'avalanche qui est fort, beaucoup de neige attendue et un vent violent. Et côté température cet après-midi, 3 à Nancy, ça baisse, 5 à Lille, 6 à Paris, 8 à Au Mans, il fera 9 à Rennes, 11 à Nîmes, 13 à Bastia et 14 degrés à Nice.
Merci Marina.